résistance et mémoire. Les jeunes Gersois à la recherche de leurs histoires.
Bonjour, nous sommes Maya, Laura et Justine. Lors de la commémoration de l'opération de minuit le 14 décembre dernier, nous avons rencontré Michael Gabrion.
Âgé de 43 ans, il est le petit-fils du résistant Pierre Gabrion. Il a fait le déplacement depuis les Yvelines, en région parisienne, pour assister à la cérémonie et partager son histoire.
Son grand-père est revenu des camps, après avoir été arrêté et déporté en Allemagne. Mais Michael Gabrion a dû mener une véritable enquête pour en apprendre plus sur lui.
Je m'appelle Michael Gabrion, j'ai 43 ans. Je suis le petit-fils de Pierre Gabrion, qui a été résistant, raflé la fameuse nuit du 13 au 14 décembre 1943, puis déporté dans les camps de concentration et survivant.
C'était votre grand-père?
Oui.
Ok, d'accord.
Et petit-neveu également de ses deux cousins que je n'ai pas connus, qui ont été raflés également et déportés, qui sont morts en camp de concentration avec lui.
Pourquoi c'est important pour vous d'être ici aujourd'hui?
Parce que je ne suis pas au courant de son histoire, en fait. C'était quelqu'un très taiseux. Des choses dont on parlait très peu. Et j'ai découvert ça après sa mort, tout ça. C'est très, très émouvant. Et faut bien se dire que ces gens-là ont un courage qu'on ne mesurera jamais de notre vivant, je pense. Parce que pour avoir fait ce qu'ils ont fait, c'est extraordinaire au sens que ça sort de l'ordinaire complètement. À 17 ans, il a voulu prendre le maquis, il s'est engagé pour défendre les opprimés, pour combattre la barbarie nazie. À cet âge-là, avoir cette maturité-là, le comprendre, prendre les armes, c'est quelque chose d'assez fou quand on y pense. Et il a donné de sa vie, il a survécu, mais à quel prix, voilà.
D'où venez-vous ?
Moi, j'habite à Maison-Laffitte, dans les Yvelines, en région parisienne.
Pourquoi avoir fait autant de kilomètres pour venir jusqu'ici ?
Pourquoi j'ai fait autant de kilomètres pour venir jusqu'ici ? En deux jours, 8 heures aller, 8 heures retour, oui. Mais c'est rien, parce que c'est important, c'est tout simplement important. Encore une fois, on ne se rend pas compte, ces gens-là sont des héros. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ce devoir de mémoire, il est capital. Parce qu'on a atteint dans l'histoire récente un sommet de ce que pouvait être la barbarie humaine, une forme d'atrocité absolue. Et ces jeunes gens-là se sont mis vent debout, se sont dressés, ont fait preuve d'un courage héroïque, dont je suis très admiratif. C'est aussi une manière de rendre hommage évidemment à mon grand-père, qui, lui, ne m'a jamais raconté ça, paradoxalement. Et donc c'est avec du retard d'être là pour lui. Je sais qu'il était là avant, de son vivant, je ne le savais pas. Voilà, donc je perpétue.
Où est né votre grand-père ?
Mon grand-père est né à Épinal, dans les Vosges, donc assez loin d'ici. Ouais.
Comment est-il arrivé jusqu'ici ?
Il est né à Épinal, il a grandi à Épinal, une famille vosgienne, c'est un Vosgien pure souche. Et c'est vrai qu'à ses 17 ans, à un moment de l'invasion nazie, allemande, il a eu la présence d'esprit étonnante. Enfin, en tout cas, il a voulu s'engager pour la France, pour résister face à l'occupant. Il est parti à Auch, en fait, avec un de ses deux cousins, où il s'est engagé. Donc, il y avait une espèce d'armée française réduite à la portion congrue, si vous voulez. Cette unité a été dissoute. Et ensuite, il a pris la tangente, il a pris le maquis. Et c'est là qu'il s'est engagé. Donc, il est descendu à Auch, en zone libre. Et ensuite, finalement, les Allemands ont repris le contrôle. Et suite à ça, il s'est vraiment engagé dans la résistance. Et il est arrivé ici, sous couverture, en fait. Hein, il était bûcheron. Il était censé être bûcheron. Il a travaillé dans la forêt de Berdoux, qui est à côté. Et là, le jour, était bûcheron, et la nuit, il était résistant. Quoi. Il récupérait les armes qui étaient parachutées, il formait les tout jeunes résistants, et il cachait ce qu'il recevait. Voilà, c'était une double vie assez incroyable. Ouais.
Est-ce que vous avez bien compris, les filles, que ici, dans le Gers, on n'était pas sous occupation nazie comme dans les Vosges?
Oui.
Mais à Auch, il y a sûrement un contingent.
C'était une zone libre qui finalement a été envahie par les Allemands contre tous les accords prévus, etc. Ce qui fait que ça a précipité le fait que certains jeunes rejoignent la résistance. Ouais.
Et ils sont venus se planquer ici, au pied des Pyrénées, dans la campagne.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé pendant et après l'opération de minuit ?
Alors, je ne sais pas grand-chose, il ne m'a jamais raconté. Je me suis documenté, j'ai lu quelques informations, un article qui date d'il y a 30 ans. Pour les 50 ans de Pour son père, il y a eu un petit article dans la Dépêche, je crois. Ce qui s'est passé à 5 heures du matin, ils ont été réveillés brutalement, sortis du lit, complètement par surprise, donc il n'y avait rien à faire. Ils racontent dans une interview qu'ils n'avaient même pas d'arme à feu, rien, sauf enfin, peut-être un pistolet, quelque chose, mais ce n'est pas ça qui les a aidés. Ils ont été mis debout les uns à côté des autres. Et la Gestapo a fait croire qu'ils allaient être fusillés. Ils ne l'ont pas été. Et ensuite, je sais, à travers des bouquins aussi que j'ai lus, ils sont allés à Auch et très rapidement, ils ont été déportés à la prison Saint-Michel de Toulouse pendant un mois, où ils ont été torturés, tous. Personne n'a parlé. Puis ils ont été transférés à Compiègne, une espèce d'antichambre, des départs pour la déportation, en fait. Il y en a deux qui sont évadés, je sais. Et mon grand-père, avec d'autres, ont été déportés au camp de Buchenwald, qui est un des camps de concentration les plus importants, où il est resté un mois, et ensuite il a été déporté à Dora, qui est un camp dont on commence seulement à parler, mais qui a été tué pendant très 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 longtemps, parce que c'est là qu'a opéré le professeur Von Braun, qui est celui qui a participé à la mission Apollo 11, qui a permis aux hommes de marcher sur la Lune, en fait. C'est-à-dire que la mission Apollo 11, cette grande avancée technologique que le monde entier salue, était diligentée, opérée par un nazi, qui a précipité vers la mort des milliers de gens, et notamment au camp de Dora, où il faisait fabriquer des missiles dans un tunnel jusqu'à l'épuisement. Voilà, donc mon grand-père a travaillé dans ce tunnel notamment, c'était les missiles dits V2, qui étaient des missiles révolutionnaires pour l'époque, pour continuer pour l'effort de guerre allemand nazi. Donc il est forcé à travailler, c'était un camp d'extermination par le travail, ce qui est assez différent d'Auschwitz par exemple. Ben là, c'était jusqu'à l'épuisement le plus total, en fait. Hein. C'était vraiment un camp de travaux forcés, en fait. Et puis avec aucune espèce de précaution pour les travailleurs, parce qu'ils dormaient dans le tunnel, comme on peut imaginer, un tunnel qui creusait en même temps. Donc il y avait des tonnes de poussière, il y avait des charges extrêmement lourdes à pousser, ils étaient épuisés, il y avait des maladies très importantes qui circulaient. Enfin, c'était une abomination, quoi. C'était une abomination, Et ce camp, voilà, je ne sais plus pourquoi je parle de tout ça, mais on en est...
Est
en Allemagne, oui, voilà. Donc ces deux cousins, malheureusement, qui étaient ici, qui ont été raflés ici à Pont-Saint-Père, sont morts très rapidement. Et mon grand-père a fait un peu différentes tâches là-bas, dans le tunnel, des travaux de terrassement en extérieur, avec simplement une chemise ouverte par moins 20 l'hiver en Allemagne, comme on peut l'imaginer. Beaucoup de missions, il y en a une qui m'a beaucoup marqué, dont il ne m'a jamais raconté, qu'il a raconté, j'ai trouvé, dans une correspondance avec un historien. Au moment où les troupes alliées ont libéré Auschwitz, en fait, juste avant, en fait, à chaque fois, les Allemands quittaient de manière précipitée les camps et amenaient avec eux tous les prisonniers, quitte à ce qu'ils meurent en chemin, peu importe, c'était un carnage pas possible. Et beaucoup de déportés d'Auschwitz sont arrivés à Dora, Simone Veil en faisait partie, et avec eux des tonnes de cadavres, en fait. Et ces cadavres, bah, il fallait les brûler, il fallait s'en occuper. Mon grand-père a été...
Vous pensez qu'il a participé malheureusement à ce travail-là?
Oui, il l'a fait. Mmh. Bah, c'était... il n'y avait pas le choix. Après, il n'a pas envoyé des gens à la mort, il brûlait les cadavres, en fait. Une fois qu'ils étaient morts, c'est terrible.
Vous savez comment il est revenu en France?
Alors, il a tenu bon jusqu'à la fin. Son camp également a été évacué. Donc, il y a eu ce qu'on appelle les marches de la mort. En l'occurrence, lui, il était mis dans un wagon à bestiaux. Ils étaient, je sais pas combien de dizaines, au sein d'un même wagon. Ils ont été amenés jusqu'à Bergen-Belsen, un autre camp, qui finalement a été libéré, je crois, le 11 avril 1945. Alors, lui, était vraiment à l'article de la mort. C'est son copain, Gaston, j'ai oublié de son nom de famille, Lumière, Lournière, qui était raflé ici aussi, qui l'a soutenu et qui l'a sauvé parce qu'il était. Il était mort en fait. Il était grand, c'était un athlète, il mesurait 1m83. En quittant les camps, il pesait 38 kilos.
Est-ce que vos parents, ils ont parlé de ça?
Personne n'en parlait. Mon grand-père avait la France chevillée au corps, c'était un patriote un peu à l'ancienne. Donc il s'est engagé dans l'armée, il a fait la guerre d'Indochine, et ensuite il a rencontré quelqu'un, effectivement il a eu son fils, mon père, et là on lui a dit « tu restes à la maison maintenant ». Voilà, donc il a arrêté l'armée à ce moment-là. Mais après, la vie continue. En fait, aujourd'hui, on fait un devoir de mémoire et on revient. Mais en fait, au quotidien, la vie, elle continue. Et il n'y a pas de prétexte, forcément, pour y revenir, pour en parler. C'est aussi une génération qui parlait très peu. Et en plus, mon grand-père, il parlait pas, tout court. Donc, c'était compliqué de nous raconter certaines choses. Il le faisait, mais sur un ton assez distant, décalé. Il en faisait presque de l'humour, quoi. C'est-à-dire qu'il ne supportait pas le froid. Bon, bah, parce que oui, bah, il a eu froid, assez froid comme ça dans les camps. Voilà. C'était un peu la blague, mais en fait, c'était pas. Quand on y pense, c'est pas drôle, parce qu'ils étaient. C'était. Dans les camps, il y avait des moments où. Tous les matins, il y avait ce qu'on appelle l'appel. Donc, ils étaient réveillés à 6 heures, et ils devaient rester debout, et on faisait l'appel de tous les prisonniers, et ça pouvait durer 1 heure, 2 heures, 3 heures. On le faisait, on la refaisait, ça durait plusieurs fois. Et pendant ce temps-là, ils étaient en chemise. C'est juste en chemise. Et il faisait, je sais pas combien il faisait, moins quelque chose, quoi. Donc oui, le froid, voilà. C'est la seule chose que je savais, c'est qu'il faisait froid. Ouais. De temps en temps, il a dit, voilà, il y a des capots. Les capots, c'était une sorte de... ces gens qui géraient des groupes de détenus dans les camps de concentration, quoi. Qui n'étaient pas forcément très commodes. Donc une ou deux fois, il a dit, ah, il y a un tel qui n'était pas très commode. Mais c'était sur un ton assez décalé. Et moi, j'ai découvert plus tard dans des livres d'histoire... Le capot en question, il avait une réputation qui dépassait de loin son seul baraquement, quoi. C'était des tortionnaires pas possibles. Et cette mise à distance, cette retenue, un peu par l'humour, mais c'est vrai que j'ai su assez peu de choses. Après, la vie faisait que je le voyais de temps en temps. Je voyais beaucoup, mais seulement quelques jours. Et comme chacun, avec ses grands-parents, les voit quelques jours, on leur demande s'ils vont bien, et puis ils nous demandent comment ça va à l'école. On n'a pas le temps de rentrer dans l'intimité de tout ça, quoi. Donc c'est sûr que c'est aussi pour ça, pour revenir à une question de tout à l'heure, c'est voilà, de venir ici, ça me permet, pas de réparer ça, mais de contribuer à faire en sorte qu'on en parle, quoi. Que ce soit présent et que ce soit... voilà, j'aurais aimé en savoir plus, donc c'est une manière de témoigner de ça, quoi.
Comment avez-vous retracé son histoire ?
Je l'ai retracé une fois qu'il est mort. Un effet boomerang, quoi. Le sentiment que je suis passé à côté de quelque chose et de devoir le rattraper. Et donc j'ai enquêté, j'ai fait un travail de journaliste. Ça part de la page blanche de Google, et puis c'est parti. Et puis on cherche des associations, des bouquins, des archives, même des archives allemandes, via le ministère des armées, j'ai retrouvé son dossier militaire, et puis on trouve des noms à droite, à gauche... Voilà, donc c'est un travail de fourmi. Ça m'a pris 2-3 ans avant de recoller recroiser pas mal d'infos, d'être mis en lien avec les gens d'ici aussi. Je connais personne ici, hein. Je suis vraiment venu parce que j'ai rencontré des gens à force d'enquêter aussi. Voilà, donc ça s'est fait petit à petit, quoi. Ouais, ça m'a pris beaucoup de temps. Ouais.
Que saviez-vous de votre grand-père à cette époque, quand vous avez commencé l'enquête ?
Je savais qu'il était passé par Dora, je savais qu'il y avait y a des bouquins, d'ailleurs, dans lesquels il était cité, mais c'est vrai que il y avait une telle mise à distance avec ça que je ne ressentais pas le besoin impérieux, c'est terrible de dire ça, mais de lire ces documents-là, parce que les choses filent, et puis voilà, c'est compliqué, enfin, c'est pas compliqué, mais quand on a 18 ans, c'est pas toujours évident de faire stop, on est sur sa vie, et de dire, bah, je vais lire un bouquin de 400 pages sur l'histoire du camp de Dora. Voilà, moi j'ai pas cette énergie, j'ai pas cette curiosité, je le reconnais, enfin voilà, c'est pas quelque chose dont on peut être forcément très 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 fier, mais c'était comme ça. Mais parce qu'aussi à la maison il y avait pas ce besoin d'urgence de connaître les choses, quoi. Et puis lui, finalement c'était lui le gardien du temple, c'était lui qui avait à dire quelque chose, c'était à lui de le faire, en fait. Et s'il le faisait pas, c'est qu'il y a une bonne raison, quoi. Donc bon, voilà. Le temps est passé, et puis j'ai essayé de le rattraper un peu tardivement.
À quel âge vous avez commencé l'enquête ?
En 2015-2016, ouais.
Pourquoi c'est important pour vous de faire cette enquête de mémoire ?
Pour des raisons à la fois personnelles et plus, non pas officielles, personnelles, pour renouer avec une histoire qui m'échappe complètement, l'histoire de mon grand-père. Et ensuite, de pouvoir témoigner de ça, en fait. Voilà. Donc, à mon petit niveau, en répondant à vos questions, en parlant au reste de ma famille, qui n'était pas au courant. en rencontrant des gens, en discutant. Voilà, c'est aussi simple que ça, quoi. D'écrire un petit article ici ou là, dans des revues de niche très très spécialisées, pour témoigner de ce que j'ai appris. Voilà, donc c'est un travail de fourmi, une table d'enquête, et aussi pour raconter cette histoire-là. Mais c'est toujours ça, voilà.
Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui comme émotion ?
Ça va mieux. Non, c'est une émotion qui est une émotion qui est paysante, encore une fois, parce qu'elle conjugue différentes choses. Elle conjugue un devoir de mémoire et une histoire personnelle. Donc, il y a toujours une forme de douleur d'être passé à côté de celle de mon grand-père. Et ensuite, il y a une émotion assez forte de me dire que voilà. Enfin, moi, j'étais très heureux de voir ce matin qui est 80 ans plus tard, autant de monde, que vous soyez présent également. Voilà, donc l'émotion, elle est plurielle, quoi. Voilà.
Vous venez chaque année ?
C'est compliqué de venir chaque année. J'habite dans les Yvelines, je mets 8 heures, 9 heures pour venir jusqu'ici. C'est un peu long et compliqué. J'ai une vie professionnelle, j'ai une vie de famille, j'ai deux enfants aujourd'hui. Donc, c'est pas évident de trouver le temps de venir, voilà. Et mon fils, qui s'appelle aussi Pierre, enfin son deuxième nom, c'est Pierre, le nom de mon grand-père. Ouais.
Quel héritage vous allez laisser à vos enfants ?
J'ai de la documentation et ça viendra. Ça viendra tranquillement, faut pas... Ils sont jeunes, ils ont 8 et 4 ans, donc pas trop les assommer de choses difficiles à entendre. Mais ça viendra, voilà.
Moi, j'aimerais savoir si avant de faire toutes ces recherches, vous vous doutiez qu'il avait vécu tout ça.
En fait, je le savais, mais sans savoir ce qui s'était passé. Je le savais par ses silences. Je le savais parce que c'était quelqu'un de très peu loquace et en très peu de mots. Il y a autre chose que les mots qui passaient. Donc j'avais conscience qu'il y avait quelque chose de grave aussi. C'est peut-être pour ça que j'ai pas fait des recherches. C'était trop... C'était trop intimidant, quoi. On a peur de se confronter à quelque chose d'assez terrifiant, quoi. C'est sûr. Et c'est vrai qu'il y a des récits qui sont très durs à lire, très très durs à lire. On soupçonne pas, en fait. C'est pour ça que je viens. Enfin, encore une fois, c'est rendre hommage à des gens qui sont vraiment des... On se rend pas compte, mais qui sont des héros absolus, quoi.
Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions.
Merci beaucoup, c'était très intéressant.
Merci.
Merci à vous.
Merci encore d'avoir pris le temps.
C'est normal.
Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont marqué ?
Je me dis vraiment que c'est très impressionnant de m'imaginer qu'ils ont dû, par exemple, ce que vous disiez là, faire brûler tous ces corps et tout. Ça devait être très dur pour eux de le faire et je trouve ça impressionnant.
Ils avaient votre âge en plus. Mm.
Moi, je trouve ça remarquable, les recherches que vous aviez faites pour savoir toute son histoire.
Enfin, tout le monde ne fait pas autant d'efforts pour essayer de savoir, alors je trouve que c'est bien.
J'ai trouvé ça très courageux de faire toute cette enquête et très émouvant.
Qu'est-ce qui t'a touchée ?
De savoir toutes les horreurs qu'il avait vécues et qu'il s'était tué pendant des années.
Ça m'intéresse beaucoup, j'ai regardé plein de documentaires et tout sur les déportations et tout ça, et de voir un témoignage comme ça d'un descendant d'une personne qui l'a vécu, ça me fait très plaisir.
Quand c'est que t'as commencé tes recherches ?
En troisième, ça m'intéressait un peu.
Avant qu'on commence notre atelier ?
Oui.
D'accord.
Oui.
On savait pas exactement tout ce qui se passait et tout ça.
Il ne faut pas culpabiliser. Hein. Enfin, c'est de se dire qu'on ne sait pas et que mince, on aurait dû savoir. Il n'y a pas d'âge et au contraire, il ne faut pas que ça... Enfin, si je peux me permettre, je joue côté un peu moralisant. Ça me rassure aussi de me dire ça parce que je me dis, voilà, j'ai mis du temps moi, à comprendre aussi, mais il ne faut pas que ce soit un poids. Quoi. Si ça arrive à l'âge de la retraite, ça arrive à l'âge de la retraite. Mais ce qui est important, c'est de randonner, c'est de s'y intéresser, quoi. Mmh. Faut pas culpabiliser, quoi. Faut pas qu'on fasse culpabiliser les gens parce qu'ils connaissaient pas ou ils s'y intéressaient pas, parce que on est tellement pris dans un flot de choses aujourd'hui dans nos vies les uns aux autres que c'est voilà, ça demande un effort en fait, quoi. Cet effort là c'est dur à faire, hein.
C'est un effort en effet. Et certains d'entre vous dans mon...
c'est loin, moi quand j'étais quand j'avais votre âge ou quand j'étais à l'école, il y avait encore des résistants qui venaient dans les écoles nous raconter. Et en fait il y avait une connexion qui était directe, et moi j'avais mon grand-père. mais même s'il parlait pas, mais c'était, je l'avais en face de moi. C'est vrai qu'aujourd'hui, je comprends que ce soit loin, que ce soit compliqué de se raccrocher à cette histoire-là.
Vous en souvenez, la première fois qu'on s'est vus, je vous ai posé la question, est-ce que certains ou certaines ont des grands-parents, plutôt arrière-grands-parents, qui vous ont raconté des histoires?
Mon arrière-grand-mère a été en Normandie pendant qu'il y a eu le débarquement.
C'est ça. Est-ce que ça vous peut-être donne envie aussi de faire des recherches un peu?
Oui, là, ça m'a donné envie de savoir.
C'est vrai?
Oui.
Je ne sais plus s'il y en avait aussi qui avaient des grands-parents qui avaient fait la guerre d'Algérie.
Moi, mon grand-père, il a fait la guerre d'Algérie et mon autre grand-père était résistant aussi.
D'accord.
Ça, ma mère a aussi fait une mémoire.
Un travail de mémoire?
Oui.
Ok. Mais en tout cas, merci beaucoup encore une fois, parce que c'est précieux tout ce que vous allez léguer aussi à cette classe et pas que, hein, à tous les jeunes qui vont peut-être écouter votre témoignage. Merci beaucoup.
Avec plaisir.
D'avoir pris le temps.
Merci.
L'interview que vous venez d'écouter a été réalisée par des élèves de terminale STMG du lycée Pardaillan à Auch dans le Gers, dans le cadre de la réalisation d'un reportage sur l'opération de minuit. Ce projet autour de la transmission de la mémoire a été accompagné par Sophia Marchesin et Sophie Perroiguet, les journalistes de l'association La Chance, avec Alexandra Josse de Médias Communs à la réalisation, sous l'égide de leurs professeurs, messieurs Duteil, Guy et Néré, qui ont accompagné le projet tout au long de l'année. L'ensemble des élèves tiennent à remercier toutes les personnes qui ont accepté de témoigner dans le cadre de ce projet. Cette émission est placée sous licence Creative Commons 4.0, paternité, pas de modification, pas d'utilisation commerciale.